Bonjour à tous, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale de Fréquence Mistral, proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, la ville de Manosque recrute 10 jeunes en contrat aidé, une première dans la région. Reportage dans ce magazine. Stéphane Figuère est le nouveau président départemental de la Chambre des métiers et de l'artisanat du 04. Interview pour Fréquence Mistral dans un instant. Mathieu Marc s'est rendu à Fort-Calquier et a rencontré Claudine Martinez qui vient d'y installer son atelier de lutherie pour quatuor à cordes. Le film « Cher Léa » a été présenté en avant-première à Digne. Le comédien dignois Grégory Montel était accompagné du réalisateur Jérôme Bonnel. L'interview d'Odile Frison pour Force 7. Cinéma toujours, avec l'aide du CNC, le cinématographe de Château-Arnoux veut faire revenir les jeunes dans les salles. Le reportage de Chris Alessandri dans un instant. La salle de boxe anglaise de Manosque porte le nom de Guerfi. Et une fresque superbe y célèbre le champion d'Europe, Karim Guerfi. Emploi, la ville de Manosque mise sur sa jeunesse.
La plupart d'entre eux ont signé leur premier contrat de travail dans une cérémonie originale. Grâce au service public de l'emploi, Pôle emploi, Mission locale et Cap emploi, la ville de Manosque a recruté une dizaine de jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville. Ils sont accueillis dans plusieurs services municipaux, jeunesse, sport, centre social, rénovation urbaine, etc. Pendant 9 mois, avec un contrat à temps partiel de 21 heures par semaine et dont la charge est assurée par l'État à 80%, ils font partie des équipes pour faire leurs preuves et acquérir de l'expérience. À terme, certains pourraient même intégrer durablement les services municipaux. Tous âgés de 18 à 25 ans, ils ont bénéficié d'un accompagnement accéléré, leur permettant de se présenter individuellement aux partenaires et ce, avec beaucoup d'émotion. Beaucoup de motivation aussi. Une énergie saluée par le directeur territorial de Pôle emploi, Richard Spinoza, qui a indiqué que leur présence et leur motivation donnaient tout son sens au travail des équipes qu'il dirige. Il a aussi ajouté que cette signature en nombre était une première en région qui pourrait inspirer d'autres collectivités. Ainsi, Ryan, Karima, Hugo, Naomi, Charlène, Allison et les autres sont entrés dans la maison mairie et le monde du travail. Une opportunité pour eux et pour la ville, souligne dans cette interview le maire de Manosque, Camille Galtier, mais d'abord Laurence Guillamot et Marie-Claude Lombard pour Pôle emploi et Mission locale. Laurence Guillamot, vous dirigez l'agence de Pôle emploi de Manosque et c'est une opération très particulière que vous avez faite aujourd'hui avec une dizaine de jeunes qui ont trouvé un emploi.
Tout à fait. Alors cette opération, on l'a baptisée sur le territoire manosquin « Booste ton projet avec la mairie ». Et elle a consisté à repérer par le service public de l'emploi, donc Mission locale, Cap emploi et l'agence Pôle emploi, des jeunes intéressés pour venir travailler dans des services de la mairie pendant 9 mois, un contrat de travail à temps partiel qu'ils ont signé aujourd'hui. Et pendant ces 9 mois, nous nous engageons, en parallèle du travail, à les accompagner dans leurs projets pour les faire avancer. Certains n'ont pas de projet, il va falloir qu'on les aide à définir. D'autres ont un projet très précis, il va falloir qu'on s'assure qu'ils avancent dans le bon sens. Et l'objectif, bien entendu, booste ton projet. Ça veut dire qu'au bout de 9 mois, ils auront tous, on l'espère, des solutions, formation ou emploi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils nous ont montré aujourd'hui qu'en l'espace de 3 jours, ils avaient des capacités assez exceptionnelles pour apprendre un petit discours de plusieurs minutes qu'ils ont présenté devant le maire. Et je pense que c'est plutôt encourageant pour la suite du parcours de ces jeunes.
Comment est-ce que vous avez sélectionné les candidats ?
Un des critères pour cette opération, c'était que les jeunes soient manosquins, bien sûr, et pas n'importe où de Manosque, mais habitent dans les quartiers qu'on appelle prioritaires de la politique de la ville, donc soit dans le centre-ville de Manosque ou Saint-Lazare, soit dans l'arc Serret-Plantier-Alizier. Donc on a repéré des jeunes qui habitaient dans ces quartiers et on les a fait venir à Pôle emploi, donc ceux qui étaient repérés par Pôle emploi, ceux qui étaient repérés par la mission locale ou Cap emploi. On leur a présenté le projet et je peux vous assurer que, alors qu'ils n'avaient pas énormément d'informations sur le contour du poste. Ils ont pourtant tous dit « Oui, la mairie est prête à nous offrir un emploi, on y va ».
À vos côtés, Marie-Claude Lombard, pour la mission locale, vous les connaissez bien, vous, ces jeunes?
Ben, on en connaît une partie, puisqu'on a travaillé avec Pôle emploi. Oui, ces jeunes, on les connaît très bien, on les prépare. Donc, je prends l'exemple de la garantie jeune, où c'est tout un accompagnement intensif pour les préparer à aller vers le monde de l'entreprise. Et je crois que c'est important d'avoir aussi à nos côtés des entreprises et des collectivités comme la mairie de Manosque. Ça permet aux jeunes d'avoir une chance et de se confronter au monde du travail. Et ce sont vraiment des jeunes qui sont très motivés. C'est vrai qu'ils manquent beaucoup de confiance en eux et je crois que c'est ça qu'il faut leur donner. C'est aussi une première chance parce qu'un premier boulot, c'est jamais facile. Donc là, c'est une première chance aussi. Cette expérience-là, c'est aussi un tremplin parce qu'on a vu des jeunes pour qui ils cherchent à acheter une voiture. Donc ben oui, travailler, gagner de l'argent, ça permet d'avoir une voiture. Donc c'est un tremplin. Ça peut leur permettre d'être après sur d'autres projets plus tard, mais au moins d'avoir une première expérience.
Il y a également une dimension collective, puisque c'est un groupe qu'on a vu ce soir.
L'idée aussi de ce projet, et c'est vrai que ce sont des jeunes qui sont donc venus de tous horizons et qui se sont rencontrés, là, ces 3 jours pour la première fois. Et c'est vrai que ben, on voit qu'il y a une unité qui s'est créée, une complicité entre jeunes. Donc ça, c'est plutôt super. C'est aussi ça l'intérêt d'être aussi entre pairs et de se motiver entre pairs, parce que je crois que c'est ça aussi. Et c'est des paroles qui pourront retransmettre aussi aux autres jeunes de dire ben, « on peut y arriver ».
L'employeur est à nos côtés, Camille Galtier, maire de Manosque. C'est un effort que vous faites que de recruter 10 jeunes, mais c'est aussi presque une mission de votre côté.
C'est pas un effort, c'est une opportunité à la fois pour la collectivité d'envoyer un message clair. Et le maire que je suis depuis un an, il a une vocation, c'est de dire que dans les quartiers prioritaires, et ça a été soulevé par les deux mesdames avant moi, c'est de dire que oui, la collectivité a un rôle à jouer à la fois dans la cohésion sociale, mais la cohésion sociale c'est quoi? C'était de dire depuis des années, nous allons dans les quartiers prioritaires et on donne un chèque en blanc à des populations pour qu'elles y restent dans ces quartiers prioritaires. Moi mon objectif c'est que ces populations elles sortent de ces quartiers prioritaires, qu'elles aient un but, qu'elles aient un emploi, que cet emploi leur permette d'acheter une voiture, d'acheter un appartement plus tard, d'avoir une vraie visibilité sur la vie qu'ils peuvent avoir. Ça c'est la réalité et c'est l'objectif que la ville de Manosque se donne et j'espère que l'on sera jugé sur ça dans 5 ans quand je rendrai les clés de la mairie. Mais plus loin que ça, c'est de dire qu'aujourd'hui on a une jeunesse qui se sent abandonnée sur beaucoup de sujets, qui ne se sent pas comprise et que là de dire ben regardez, vous avez une collectivité qui vous ouvre les portes, même si vous êtes issu des quartiers prioritaires de la ville, et on vous donne l'opportunité de dire, ben venez, montrez de quoi vous êtes capable. Et si vous êtes utile, et je le dis puisque ça n'a pas été dit avant, ben la collectivité pourra peut-être vous garder. Elle vous met un pied à l'étrier, mais si vous êtes dans le service public et que vous rendez service au public de façon efficiente et efficace, ben pourquoi pas rester avec nous. Et après, je le dis, j'ai aujourd'hui la casquette ville de Manosque, j'ai désormais la casquette département et j'espère que dans quelques mois, on se dira la même chose et qu'on mettra la même opération en place au niveau du département des Alpes-de-Haute-Provence.
Le directeur territorial de Pôle emploi, Richard Spinoza, l'a signalé. C'est une expérience unique en PACA que de recruter pour une collectivité comme la vôtre une dizaine de personnes en contrat aidé. Vous souhaitez qu'elles puissent être transposées un petit peu partout?
Les collectivités ont eu le don, et l'État a eu le don, de demander aux privés de faire des choses qu'eux-mêmes ne s'appliquaient pas. Donc je pense qu'on a un devoir d'exemplarité et de montrer le chemin aux privés. Oui, c'est le cas et ça doit être le fait par les collectivités. Donc j'espère, je le dis, que d'autres villes dans le département vont faire la même application de ce programme-là parce que c'est une opportunité qui a été mise en place par l'État. Il faut qu'on s'en saisisse et que chacun joue le jeu.
Concrètement, ces jeunes-là vont se retrouver dans plusieurs services municipaux. Vous allez suivre leur parcours?
Ben on va les suivre, on va aller leur rendre visite, comme je le fais d'ailleurs avec les autres employés municipaux et avec les autres services. Et ce qui est bien, c'est qu'on l'a vu ce soir, ces différents panels sur les métiers d'une collectivité. Parce que souvent, on se demande à quoi sert une mairie. Là, ils vont voir à quoi sert une mairie. Ça peut être le bâtiment, ça peut être l'animation dans les quartiers ou dans les services jeunesse. Ça peut être aussi l'environnement et la propreté urbaine. On a bien un panel de toutes les missions d'une collectivité au service du public. Et c'est ça qui est intéressant.
Vous avez remarqué, comme moi, l'ambition de ces jeunes et ils veulent croquer la vie, quoi.
C'est formidable. Moi, je trouve ça formidable. Et là, pour le coup, c'est vraiment l'homme de 30 ans qui le dit. Je trouve ça formidable d'avoir une jeunesse qui a envie et qui croque la vie à pleines dents.
un nouveau président pour les artisans du 04.
Première sortie officielle pour Stéphane Figuère, récemment élu à la présidence départementale des Alpes de Haute-Provence de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat. C'est au Salon des Arts et Gourmandises de Manosque que le nouveau président a officié, aux côtés du maire Camille Galtier et du vice-président de l'agglomération André Mille, pour couper le ruban inaugural de cette manifestation du savoir-faire. L'occasion pour nous de revenir sur les élections qui se sont déroulées en octobre dernier et voyez deux listes s'affronter. Aujourd'hui, c'est Yannick Mazette qui préside la Chambre régionale quand Stéphane Figuère est en charge du 04. Plombier chauffagiste à Pépin, il succède à Laure Vial et veut œuvrer à rapprocher la Chambre des 6700 artisans des Alpes de Haute-Provence. Stéphane Figuère, vous venez de prendre la présidence de la Chambre des métiers de l'artisanat des Alpes de Haute-Provence. Quelle est votre feuille de route ?
Alors ma feuille de route, elle est d'essayer de guider au mieux nos artisans, pour quels problèmes qu'ils aient, autant pour la passation de leur entreprise, pour la création, pour l'apprentissage, et de faire connaître au mieux tout ce que la Chambre des métiers peut apporter à tous nos artisans, en fait, parce qu'ils n'utilisent pas à 100% tout ce qui est en place pour eux.
Quels sont le type d'outils, par exemple, qu'ils n'utilisent pas assez ?
Ben, tout ce qui est numérique, beaucoup peinent à s'en servir, alors qu'on a du personnel qui est champion à la chambre, qui peut leur faire plein de choses. Et après, des formations, on fait des formations sur les langues, pareil, il y a des gens qui ne viennent pas. On a tout un panel de formations et que les gens n'utilisent pas vraiment à leur juste valeur, quoi.
Pour revenir sur ces élections récemment, la participation a été relativement élevée ou plutôt faible ?
Mais la participation, elle a été comme d'habitude, elle est relativement faible. Les artisans ne se sentent pas vraiment concernés, on dirait. Alors c'est vrai que pendant les élections, on va toujours les voir. Et après, tout le monde a un peu tendance à ne plus se montrer. Voilà. Donc j'espère que je me montrerai plus et que je ferai de manière à ce qu'ils aient plus envie de voter la prochaine fois, sachant tout ce que la Chambre peut faire. Et il faut qu'on ait des voix au niveau du gouvernement. Il faut qu'on prouve que les gens s'intéressent à la Chambre, enfin nos artisans s'intéressent, pour que nous, on puisse faire remonter au niveau du gouvernement le maximum de choses. Parce que quand on a très peu de pourcentage de vote, eh bien, au niveau du gouvernement, ils disent ben, « Ouais, mais bon, vos ressortissants, vu qu'ils ne viennent pas voter, c'est qu'ils ne se plaignent pas, tout va bien. » Et c'est pas un bon principe.
Il y avait deux listes en présence au mois d'octobre. Vous allez travailler avec l'autre liste également ?
Alors, bien entendu, oui, je vais travailler avec l'autre liste. D'ailleurs, il y en a qui sont rentrés dans mon groupe. Et bien sûr, on travaillera en collaboration parce que il y a la guerre des élections, mais après, il faut travailler. C'est des artisans comme nous. Nous sommes tous des artisans, donc il faut travailler en bonne intelligence pour le bon rendement de la Chambre et la bonne aide pour nos artisans. Voilà. C'est parce que le but principal, c'est nos artisans.
Alors Stéphane Figuère, vous êtes présent aujourd'hui à Manosque parce qu'il y a le Salon de la gourmandise et des arts. C'est une vitrine aussi pour vos ressortissants.
Tout à fait. Là, nos artisans d'art, et autant que ce soit dans l'alimentaire que dans l'artisanat d'art, c'est une très belle vitrine. Là, ils peuvent exposer plein de choses et le commun des mortels peut voir exactement toutes les facettes de l'artisanat, toutes les créations qui sont faisables grâce à l'imaginaire de tous nos artisans, et c'est quelque chose de très très bien.
Il y a également une belle collaboration avec l'agglomération manosquine.
Ah oui, tout à fait. Là, c'est vrai qu'on leur doit un grand merci, parce que c'est vrai qu'on travaille beaucoup en collaboration avec la DLVA. C'est très bien pour que ça dure.
Une luthière du quatuor à cordes s'installe à Fort-Calquier.
Que seraient les quatuors à cordes sans les luthiers ? Violon, alto et violoncelle prennent vie et âme sous leurs mains avant de vibrer sous celles des artistes. Métier difficile qui repose sur un savoir-faire à acquérir et entretenir, la lutherie reste un domaine discret, voire occulte, mais essentiel aux musiciens. L'ouverture d'un atelier est un événement pour les pratiquants de tous niveaux, et c'est à Fort-Calquier que Claudine Martinez, luthière expérimentée des instruments du quatuor à cordes, s'est installée. Elle espère développer son activité dans la région comme à l'international. En attendant, elle présente son métier depuis son atelier au micro de Mathieu Marc. Claudine Martinez.
Le métier de luthière du quatuor à cordes, ça consiste à la fabrication des instruments du quatuor et la réparation, c'est-à-dire le violon, l'alto, le violoncelle.
Il y a d'autres formes de luthier ?
Il y a d'autres formes de luthier, les luthiers qui concernent les instruments à cordes pincées, les luthiers guitare ou d'autres instruments à cordes pincées. Et moi, mon métier, il se concentre sur les instruments à cordes frottées.
Et là, nous sommes dans votre atelier, par exemple. Vous êtes en train de travailler sur quoi ?
Alors là, actuellement, je suis en train de fabriquer un violon. Je ne travaille pas en ce moment sur commande, parce que moi, j'ai travaillé dans plusieurs ateliers où je faisais de la réparation et de la manutention. Et je suis en train d'ouvrir mon propre atelier où j'aimerais faire que de la création et de la fabrication. Du coup, en ce moment, je construis, je crée, je fabrique des instruments pour pouvoir les proposer, pour pouvoir ensuite travailler sur commande.
C'est-à-dire que là, vous les produisez sans commande et ensuite, ils vont être mis à la vente.
Voilà, c'est ça. Je vais les fabriquer, les proposer, les faire essayer et me faire connaître comme ça pour pouvoir travailler sur commande par la suite.
Dans le travail de cet instrument qui est le violon, quel est le bois utilisé et d'où il vient ?
C'est de l'érable ondé pour le fond et de l'épicéa pour la table. C'est du bois qui vient d'Europe de l'Est ou du nord de la France. C'est du bois que je trouve... Il y a des fournisseurs de bois qui sont spécifiques dans le bois de Lutry. C'est-à-dire qu'ils sélectionnent déjà les arbres et ils le coupent aux mesures. Ils le sélectionnent pour le bois de Lutry.
Et c'est toujours ces deux essences qui sont utilisées pour le violon ?
C'est toujours ces deux essences qui sont utilisées parce que ce sont des essences qui transmettent le mieux la vibration sonore.
Et dans la Lutry, il y a beaucoup d'outils ?
Alors, il y a énormément d'outils, oui, pour réaliser un violon. Ça va de des rabots, des gouges, des canifs, des limes, des scies. Il y a un grand panel d'outils pour la réalisation d'un violon.
Comment on devient luthière ? Il y a une formation ?
Alors, moi, j'ai fait une école en Italie, à Crémone. Il y a une école de lutherie en France, à Mirecourt, dans les Vosges. Moi, j'ai décidé d'aller en Italie. C'est une école internationale sur 3 ans. Et ensuite, il faut continuer à se former auprès de luthiers, à travailler dans des ateliers. On dit que généralement, il faut au minimum 10 ans pour devenir luthier ou pour avoir acquérir au moins un minimum de connaissances pour réussir à bien faire son métier.
Et ça fait 10 ans ?
Moi, ça fait 12 ans, je crois, 12 ou 13 ans. Mais j'apprends encore aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant dans ce métier-là aussi, c'est qu'il y a toujours des choses à apprendre.
Et vous travaillez tout le temps toute seule ou parfois avec d'autres personnes justement sur des projets, des instruments ?
Alors pour le moment, je travaille toute seule, mais ça m'intéresserait de travailler avec d'autres gens. J'ai des amis luthiers, j'aimerais bien faire des choses en collaboration avec d'autres luthiers. Mais ça reste quand même un métier assez solitaire.
Peut-être aussi pour ça qu'on le cherche, non ? Presque méditatif ?
Ouais, voilà, c'est assez méditatif.
Est-ce que vous savez à peu près combien il y a de luthiers ou de luthières en France ? Alors, c'est peut-être pas en termes de quantité, mais est-ce que c'est un métier qui est répandu ou c'est un milieu où tout le monde se connaît ?
C'est un milieu où on se connaît un peu tous, qui est assez répandu. C'est-à-dire que peut-être on a une idée qu'il n'y en a pas beaucoup, mais en réalité, il y en a dans chaque ville et qui sont proches des conservatoires, il y en a.
Vous l'avez expliqué tout à l'heure, vous faites des créations, ensuite vous allez les vendre, mais vous savez si à Fort-Calquier, c'est quelque chose de demandé, le violon, dans la région, ou plutôt le luthier ou la luthière se dit que son public et ses clients vont de toute manière s'étendre sur l'ensemble du territoire, voire à l'international ?
Ça s'étendra au niveau national, voire à l'international. Ma clientèle de Fort-Calquier, sûrement je vais continuer à faire de la réparation d'instruments et de la manutention pour de la clientèle locale. Et après, faire des salons, des concours pour vendre mes instruments de manière nationale.
Et s'il y a des auditrices, auditeurs qui sont intéressés par ce que vous faites, est-ce que vous avez un site internet ou des références à nous donner ? Comment on vous trouve ?
Alors, je suis à Fort-Calquier, dans les remparts de Fort-Calquier. Je viens juste d'arriver, du coup, j'ai pas encore de site internet, c'est en cours. Donc, vous pourrez bientôt me trouver sur internet.
Claudine Martinez, à Fort-Calquier.
Jérôme Bonnel et Grégory Montel pour présenter Chère Léa.
Alors que la série 10% qui a contribué à sa popularité a obtenu un Emmy Award à New York, Grégory Montel a retrouvé sa ville natale pour y présenter Chère Léa. Le comédien n'est pas venu seul. Accompagné du scénariste et réalisateur d'une grande sensibilité, Jérôme Bonnel, Grégory Montel tient le premier rôle du film. Il est Jonas, un homme bousculé par ses sentiments amoureux et les vapeurs d'alcool. Il a participé avec plaisir à cette avant-première dignoise. Chère Léa sort en salle le 15 décembre. Jérôme Bonnel puis Grégory Montel répondent aux questions d'Odile Frison.
Jérôme Bonnel, réalisateur, vous présentez aujourd'hui en avant-première Chère Léa.
Oui, et je suis ravi de venir présenter aujourd'hui à Digne-les-Bains, qui est la ville natale de Grégory Montel, l'acteur principal du film. Et du coup, c'est assez émouvant. J'ai fait la connaissance de ses parents tout à l'heure, ils vont venir voir le film et voilà, qui m'est emmené ici. Quoi. Je suis très ému, très heureux.
Le portrait d'un homme, ses émotions, comment vous est venue l'idée de faire ce film ?
Déjà, je voulais à la fois questionner la fragilité du masculin et raconter une histoire de dépit amoureux et du côté masculin, ce qui est à mon avis une chose assez rare au cinéma, j'ai l'impression. Et sur un temps très court, c'est-à-dire que c'est le portrait d'un homme à travers une seule journée de sa vie. Un homme qui entre dans un café, il pense qu'il va y rester quelques minutes, le temps d'écrire une lettre d'amour à une femme qu'il souhaite récupérer et qui habite en face, et qui croit qu'il va lui prendre quelques minutes, va lui prendre la journée entière. Et cette journée sera le film, c'est-à-dire qu'il va lui arriver tout un tas de péripéties, il y a des rencontres qu'il va faire, qui vont le faire s'éclairer autrement, qui va accepter une certaine introspection. Et je dois dire aussi que Grégory Montel a apporté beaucoup de comédie au film, parce qu'il a une force comique vraiment hors du commun, et que moi, il m'a rendu très spectateur chaque jour de tournage, et c'était un bonheur.
Il a réussi à vous surprendre.
Ah, énormément. Moi, j'adore être surpris par les acteurs. Moi, j'adore quand j'ai un scénario précis, mais que c'est pour moi tout autant un terrain de liberté. Et que j'essaye au maximum de m'abandonner, moi, à la place de la mise en scène sur le tournage pour être spectateur.
C'est un film qui est filmé, on peut dire, en huis clos, uniquement dans le bar et dans la rue.
Oui, c'est un film vraiment sur le hors-champ, puisque c'est à la fois une seule journée, un lieu quasi unique, et c'est un café. Et le café, c'est merveilleux. Moi, j'adore les cafés. Je passe un temps fou dans les cafés. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, j'adore observer ce qui s'y passe et imaginer la vie des gens, de voir toutes ces solitudes qui se frôlent, tout ce mystère, toutes ces choses qui sont pour moi très romanesques. Et du coup, le hasard aussi des circonstances, c'est que le film est devenu un hommage à la réouverture des cafés. Et pourtant, ce film, on l'a tourné sans savoir ce qui allait se passer, parce qu'on l'a tourné il y a presque 2 ans et demi maintenant. Et il a été confiné comme nous tous, et on est très heureux d'enfin pouvoir le montrer.
Est-ce que ça a été difficile pour vous de faire le choix des acteurs ?
Alors, Grégory Montel, je l'adorais depuis un certain temps, parce que je l'avais vu dans un film de Grégory Magne, réalisateur des Parfums, qui était son tout premier, qui s'appelait L'air de rien, dans lequel il jouait le rôle principal avec Michel Delpech, qui jouait son propre rôle. Et après, évidemment, je l'avais vu dans 10%. Et puis Grégory Gadebois, qui a le deuxième rôle principal avec lui, qui joue le patron du café. On avait déjà travaillé ensemble, parce que je le connais depuis qu'il est au conservatoire. Et il avait fait des petits rôles dans mes films jusque-là. Il avait fait des grands rôles dans d'autres films. Et je m'étais juré, enfin, on s'était dit, si on se retrouve la prochaine fois, c'est forcément pour un grand rôle. Et voilà. Donc c'était une belle occasion. Et Nadège Bossondiang, qui nous a accompagnés, qui est une actrice merveilleuse aussi, qui est là avec nous aujourd'hui. Je l'avais vu dans le film de Valérie Lemercier, qui s'appelait Marie-Francine. Et dans le film de Nadège Loiseau qui s'appelait Le Petit Locataire. Et voilà, elle aussi, elle a une énergie incroyable et elle a joué le rôle avec beaucoup de finesse aussi.
Puis on va dire quand même un mot sur Léa Drucker qui, malgré son petit rôle, a une présence formidable.
Ah oui, alors Léa Drucker, elle m'a fait un cadeau inouï. Parce que alors, Léa Drucker ne joue pas Léa dans le film, c'est un peu compliqué, on s'y perd. Mais celle qui joue Léa, c'est Anaïs de Moustier, que j'étais ravi de retrouver après À Trois On Y Va. Et Léa Drucker, effectivement, elle m'a fait un cadeau magnifique parce qu'elle est venue seulement une journée de tournage. Donc c'était un rôle pour jouer une scène très longue, mais somme toute, c'est un rôle assez court. Et elle joue l'ex-femme du personnage joué par Grégory Montel. Et moi, elle m'a sidéré parce que ce qu'elle donne et ce qu'elle invente, c'est vraiment extraordinaire. Là, je parlais d'être spectateur, là j'étais. J'étais très 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 ému de sa générosité.
On va parler de la musique du film qui a quand même une part importante et puis il y a le chant d'Anaïs de Moustier.
Oui, la musique, alors elle est signée David Stank qui a fait un travail magnifique. Il s'est inspiré d'un lead de Schumann que chante dans le film Anaïs de Moustier qui joue une chanteuse lyrique. Et moi ça me plaisait beaucoup qu'elle soit chanteuse lyrique comme ça parce qu'il y a une façon, comme c'est la femme que Grégory Montel essaye de récupérer, que c'est une histoire d'amour en train de se terminer, qu'il voudrait vraiment la reconquérir. il y a toute cette histoire de présence-absence assez cruelle, et en fait il l'entend chanter à travers la fenêtre ouverte, et ça raconte d'autant plus qu'elle est là tout près et en même temps elle est déjà loin, et c'est cette chose cruelle de la vie de l'autre sans soi, quoi. Et ça illustre vraiment ça pour moi. Enfin, en tout cas, c'est pour ça que j'ai eu envie qu'elle soit chanteuse dans le film. Et je dois préciser que c'est sa vraie voix. C'est un hasard aussi. Mais elle m'a dit, mais tu sais que je chante, je fais du chant lyrique, parce que moi j'avais l'intention de la doubler. Et quand elle m'a dit ça, je dis, mais c'est génial. Et du coup, c'est vraiment elle qui chante dans le film.
Avant de donner la parole à Grégory Montel, est-ce que vous avez des projets, bien sûr, après la tournée de ce film, Chère Léa, des projets pour 2022 ?
En fait, depuis Chère Léa, j'ai tourné, non pas un film, mais une série qui passera sur Arte le 6 janvier, qui est en 3 épisodes, 3 fois 52 minutes, qui s'appelle Les Hautes Herbes, dans laquelle j'ai retrouvé Emmanuel DeVos, entre autres, que, voilà, que j'étais ravi de retrouver.
Grégory Montel, donc, dans le rôle de Jonas. Est-ce que ça a été difficile pour vous de jouer ce rôle, puisque c'est quand même un rôle assez intérieur ?
Non, je ne peux pas dire que c'était très difficile, mais on a bien travaillé en amont, on s'est fait confiance, on s'est rencontrés avec Jérôme, que je ne connaissais pas au préalable, on a un petit peu discuté de ce personnage, sans trop non plus. Et puis moi, de mon côté, j'ai fait mon petit travail d'écriture de cette lettre, en amont, un travail assez classique de comédien. Et puis effectivement, peut-être que parfois, de temps en temps, j'ai essayé d'aller chercher des émotions un peu plus enfouies en moi, des choses, quand il s'agit de passion, on va toujours un peu chercher à l'intérieur, on va un peu fouiller. Parfois, je me suis surpris à faire rejaillir des émotions. C'était très agréable, c'était une chouette expérience.
Et vous tenez à cœur de présenter ce film à Digne, vous aussi ?
Bah ouais, j'espère que les gens n'interprètent pas ça comme une espèce de... Mais j'aime bien que quand j'ai un film qui sort, j'aime bien venir le proposer pour les Dignois, et que je connais bien, ou tu travailles beaucoup ici aussi, vous le savez. Et donc j'aime bien venir montrer le travail que je fais, tenir au courant. Je sais pas, c'est une façon pour moi de me retrouver avec mes proches dans un endroit où je me sens rassuré. Voilà. C'est pas très rassurant une sortie de film, et ici je suis rassuré.
Vous avez aimé jouer ce rôle ?
J'adore ce film, j'adore ce film. Je suis un véritable spectateur lorsque je le vois. Je l'ai vu pour la 4e fois, ce jour à Fontainebleau. J'en sors toujours aussi ravi, avec plein de choses en moi. Et ça fait partie des plus beaux rôles que j'ai eu la chance d'interpréter. Voilà.
Donc votre quotidien en ce moment, c'est de faire toutes les avant-premières, Jérôme ?
Ah oui, et c'est très agréable parce qu'on n'est pas encore dans la réalité de la sortie, du côté industriel, les chiffres, tout ça. Et en ce moment, d'ailleurs, c'est dur, et je voudrais inviter vraiment les gens à venir au cinéma parce qu'ils sont pas encore assez nombreux et que, avec tout ce qu'on entend, les gens peut-être sont un peu inquiets. Et on sait très bien que dans les cinémas, il n'y a pas de cluster. Il y a eu des études très sérieuses à ce sujet. Et donc là, moi, effectivement, on se promène de ville en ville et c'est très agréable. Parce que les gens me disent des choses qu'on m'a dit peu de fois sur mes autres films, et là ils me disent vraiment on sort heureux. Et moi j'aurais jamais imaginé que ce soit à ce point-là en fait, donc ça me fait vraiment plaisir.
Cinéma, il faut que le public retrouve le chemin des salles.
Le constat est amer et sans appel. De 2010 à 2019, les spectateurs âgés de 15 à 25 ans ont progressivement déserté les salles de cinéma. Aussi, le CNC, Centre National du Cinéma, qui soutient la création cinématographique, a décidé d'initier une grande dynamique nationale pour faire revenir ce public à la cinéphilie. Ciné-débat, éducation à l'image, initiation à la programmation, organisation de mini-festivals font partie du projet qui sera mis en place dans les cinémas du pays. À Château-Arnoux, le cinématographe passe à l'action dès ce samedi 11 décembre à 18h15 avec une rencontre autour de deux courts-métrages présentés par Élan C, Pensée Danse et Vivaldi dans la colline, qui seront suivis du West Side Story de Steven Spielberg. Il a revisité le chef-d'œuvre de 1957. Jean-Paul Hénat, l'un des directeurs du cinématographe, répond aux questions de Chris Alessandri. Mais d'abord, il présente la nouvelle recrue du complexe cinématographique de Château-Arnoux, Anaïs Rinaldi.
Nous sommes donc au cinématographe, nous sommes actuellement 5 personnes, et depuis des années qu'on travaille ensemble, le temps est venu de penser enfin, à la continuité de ce cinéma, et donc on a recruté depuis le mois de mai Anaïs Rinaldi, qui était à l'origine au Théâtre du Rance, et après a bifurqué sur le cinéma, sur la gestion du cinéma de Briançon, de Gréoux-les-Bains, alors un poste de médiatrice culturelle, et sera à la tête de tous les projets concernant le cinématographe.
Jean-Paul, rassurez-moi, que ce soit Jimmy ou vous, vous ne vous sentez pas vieillir quand même.
Non, mais bon, c'est bien de... que l'équipe soit renforcée par quelqu'un de plus jeune, qui a beaucoup d'idées.
Anaïs, qu'est-ce que vous ressentez au sein donc de l'équipe du Cinématographe, votre arrivée toute récente?
Eh bien, déjà, Jean-Paul et Jimmy sont irremplaçables. Je n'ai pas du tout la prétention de les remplacer. Mais oui, on va essayer avec l'équipe actuelle de restructurer un peu les choses pour arriver à prendre la relève d'ici quelques temps. Mais je me sens très bien, c'est mon cinéma. Moi, j'ai grandi à Bologne, donc j'ai connu que ça comme cinéma pendant des années, jusqu'à ce que je sois étudiante et que j'aille voir ailleurs. Mais que je me rende compte qu'on a quand même une chance inouïe d'avoir un cinéma de cette qualité avec autant de venues de réalisateurs, de soirées en lien avec des associations locales, etc.
Vous êtes en ce moment sur un projet, il y a encore une nouvelle structure qui va être amenée à cette palette d'activités que vous menez en ce moment au Cinématographe.
Oui, on suit un mouvement national qui est initié par le CNC. La question, c'est comment faire revenir ou maintenir les jeunes, c'est-à-dire un public entre 15 et 25 ans qui, surtout pendant le confinement, est parti sur un peu les plateformes, comment le faire revenir et l'intéresser justement au cinéma. Donc on va essayer de mettre en place un plan pour inciter des jeunes de ce tranche d'âge, mais qui soient quand même plus acteurs des manifestations que leur livrer des manifestations clés à main. Et on voudrait que des jeunes nous rejoignent pour avoir des idées et monter des projets.
D'après vous, Jean-Paul, à quoi est dû ce manque d'engouement, peut-être, dont vous parlez pour le cinéma, en ce qui concerne les jeunes?
Déjà, à l'heure actuelle, on a un petit problème avec l'histoire de Covid, de vaccin. Bon, les jeunes se vaccinent, mais plus lentement que les personnes âgées. Donc, on a un petit déficit à ce niveau. C'est des jeunes qui sont beaucoup chez eux maintenant, beaucoup dans les jeux vidéo, beaucoup dans les séries. On n'a rien contre les jeux vidéo et les séries, mais on aimerait qu'ils s'intéressent un peu plus au cinéma, et surtout au cinéma, peut-être plus d'auteurs, parce qu'on les retrouve sur les films dits commerciaux, mais sur les films un peu plus difficiles, on a du mal à les faire venir.
De quelle façon, Anaïs et Jean-Paul, interpeller et attirer ces jeunes dans les salles de cinéma?
Du coup, on voudrait plutôt les faire venir déjà sur autour du cinéma, c'est-à-dire par des ateliers, des ateliers découverts, des choses comme ça, sur comment on fait une affiche de cinéma, comment on fait un montage vidéo, comment ça se passe le bruitage ou le doublage, comment ça se passe une projection, etc. On veut essayer de les faire venir un peu sur ce qui peut se passer autour du cinéma pour pouvoir ensuite les faire venir dans le cinéma. Et comme disait Jean-Paul, leur faire voir des films aussi plutôt à réessayer.
Ils sont même dans l'organisation, s'ils sont un petit groupe, comme d'un comité de programmation, s'ils veulent organiser une soirée avec des films de leur choix pour présenter cette soirée et par l'intermédiaire des réseaux sociaux, de faire venir du public.
Alors là, nous sommes sur une logique de mise en place, une véritable stratégie. Comment ça va se mettre en place? Quand? Comment? Et avec quel premier rendez-vous?
Alors, des soirées avec des acteurs locaux, des associations sur des thématiques particulières ou des venues de réalisateurs, etc. On en fait quand même régulièrement dans l'année. C'est juste que maintenant, on va essayer de plus communiquer auprès de les premiers rendez-vous. Il y en a en décembre. On a
le 11 décembre,
c'est The West Side Story, donc revisité par Steven Spielberg. Il y a l'association de danse élancée qui a réalisé deux courts-métrages de danse, dont un pendant le confinement. On va projeter les courts-métrages le samedi 11 à 18h15. On va projeter les deux courts-métrages en amont de la séance de West Side Story. Et le 14 décembre, on a une conférence, donc Université Populaire. On fait des conférences régulièrement dans l'année sur des thématiques qui sont associées à des films. Et donc là, c'est sur la nouvelle histoire d'immigration avec le film Une histoire d'amour et de désir, qui est donc une histoire d'amour entre deux jeunes de 18 ans. A priori, un rendez-vous qui peut aussi intéresser ces publics-là. Après, pour ce qui concerne les ateliers, ça sera plutôt mis en place à partir de janvier-février. Déjà, le temps qu'on arrive à constituer un petit groupe de jeunes qui y participent avec nous. Et mi-janvier ou fin janvier, déjà, les ateliers de création d'affiches, par exemple, on pourra les mettre en place. Et a priori, d'ici février, on pourra mettre en place aussi des ateliers de mash-up, donc montage vidéo, doublage, bruitage, etc.
Manosque, la fresque du guépard pour honorer Karine Guerfi.
La salle de boxe anglaise du complexe Fachleitner porte désormais le nom de Guerfi. Une magnifique fresque du peintre Christophe Avella-Bagur illustre le caractère du champion d'Europe manosquin et le guépard, emblème mythique du boxeur, assistera désormais à tous les entraînements des membres du ring manosquin. La présence tutélaire de Karim accompagne désormais les boxeurs manosquins et son parcours prestigieux est un exemple. Avant lui, son père Rachid et son oncle Kamel avaient apporté aussi tout leur talent au noble art dans la cité de Giono. Leur nom est désormais affiché sur le fronton de la salle et ce n'est que justice. Presque toute la famille Guerfi encadrait le guépard pour cette inauguration. De nombreux amis également, ainsi que des représentants de l'entreprise Proman, fidèle sponsor du champion, et bien sûr, des élus manosquins autour du maire Camille Galtier. C'est son premier adjoint que je vous propose d'écouter, Alain Demoulin, en charge du sport à Manosque, mais d'abord, le héros de la ville qui est aussi simple dans la vie de tous les jours que déterminé, combatif, sur le ring, Karim Guerfi. Karim Guerfi, une fresque qui rend hommage au guépard. C'est une très très belle idée.
Ben ouais, si ça a été surprenant, sur le coup ça m'a surpris. Moi déjà, le premier adjoint Alain Demoulin, je le connaissais depuis des années. Et même lui, il voulait donner une vraie reconnaissance à ce qu'on a fait dans la boxe à Manosque, que ce soit mon père ou moi ou mon oncle. Et du coup, voilà, il y a cette idée qui a émergé. Et franchement, c'est magnifique parce que ça reste gravé.
Alors vous l'avez dit, la salle de boxe anglaise ici à Manosque s'appelle la salle Guerfi. Évidemment, on pense Karine Guerfi, on pense aussi Rachid et Kamel.
Bien sûr. Ah, bien sûr, on est une famille de boxeurs, voilà. Surtout mon père, il a beaucoup œuvré pour la boxe à Manosque. Après, il a formé mon oncle, qui après mon père m'a formé à moi, et puis d'autres jeunes. Il a organisé à Manosque, il a fait de belles choses. C'est une reconnaissance pour tout ça. Voilà, c'est pas pour Karim Guerfi, c'est pour toute la famille Guerfi. Et c'est vraiment quelque chose de beau ce qu'ils ont fait.
Et là maintenant, c'est Karim Guerfi, c'est le guépard qui surveille les entraînements à Manosque.
Bon, là, je m'entraîne beaucoup, mais j'essaie de jeter un œil quand même. Je m'occupe un petit peu des jeunes, mais comme j'ai l'entraînement derrière, je peux pas trop m'occuper. Mais en tout cas, quand je vais arrêter ma carrière, je veux prendre un peu comme ce que mon père faisait pour essayer encore d'accompagner les jeunes et pourquoi pas organiser des réunions de boxe à Manosque. Ça serait beau.
Elle n'est pas finie votre carrière, Karim. Vous avez décidé de remonter sur le ring. Encore un beau dernier combat, probablement.
Oui, moi, en tout cas, j'espère faire un beau dernier combat à Manosque. Déjà, c'est l'objectif. Après, là, c'est vrai qu'en étant champion, je ne pouvais pas arrêter. Il fallait que je continue, que je défende cette ceinture. Il y a encore un petit peu la flamme, elle est là. Puis j'ai une catégorie où je souffre moins. Je suis moins dans le régime, donc franchement, je suis encore là. 2022, ce sera, oui, la dernière année. On en est sûr, mais en tout cas, je vais tout donner dans cette année pour ne rien regretter.
Et nous, à Manosque, on vous suit évidemment, hein, sans aucun problème. Vous l'avez cité tout à l'heure, Alain Demoulin, il est à nos côtés, il vous a accompagné, vous étiez très jeune, on va dire. Alain Demoulin, c'est une consécration aussi pour Karim Guerfi de la ville de Manosque envers un champion.
Ouais, je ne vais pas employer le mot consécration parce que j'espère que ça va durer encore un peu parce qu'il nous a quand même habitués à avoir des retours de flamme. Donc j'espère qu'il continuera le plus longtemps possible. Mais consécration, c'est simplement une reconnaissance et on lui doit bien ça.
C'est vous qui avez eu l'idée de faire une fresque comme ça, dans la salle d'entraînement ?
Ouais, c'est quelque chose qu'on a discuté avec certains. Ben, dans le monde du sport, c'est quelque chose qu'on fait assez souvent. Des médailles, c'est bien, mais voilà, on la met dans un tiroir. Là, c'est quelque chose que tous les jeunes du club ne peuvent pas oublier, parce que quand ils arrivent, ils voient quoi ? Ils voient la fresque. Et pour l'entraînement, c'est important.
C'est un exemple.
Ah, ça va plus loin que l'exemple. Psychologiquement, c'est le moyen de se performer par rapport à l'illustre qui est là dans la salle, même quand il sera plus là, même dans 100 ans, les jeunes qui rentreront dans cette salle, ils diront « oui, il y avait un champion ici, donc je peux être champion moi aussi ».
Serge Collin, qui dirige le collectif sportif manosquin, rappelait que c'était la première fois à Manosque qu'on honorait un sportif de haut niveau vivant.
Oui, on a honoré à Manosque, mais souvent avec une petite médaille, avec juste un petit apéro à la mairie. Je pense que ça suffit pas pour nos athlètes. Nos athlètes méritent mieux. La reconnaissance qu'on leur doit, c'est au moins le pouvoir se souvenir d'eux, mais longtemps et pas dans un tiroir.
C'est la fin de ce magazine. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau Force 7, François.
Exactement. Merci beaucoup, Olivier, pour la régie. À bientôt.